Aujourd'hui, le sujet qu'on va voir ensemble, c'est un genre de petite étude, puis on ne sait pas de quoi pour nous faire sauter dans les airs et nous exciter. C'est plutôt quelque chose qu'on veut comprendre, on veut approfondir en regardant certains passages de la Bible, parce qu'on n'en parle pas souvent, puis je pense qu'on devrait en parler plus souvent. Puis, vu que cette semaine, on a l'intention de se lancer là-dedans, de faire un jeûne, mercredi, jeudi, vendredi, prendre un temps à part avec le Seigneur, s'approcher du Seigneur. On va voir un peu l'importance du jeûne. Ça fait partie de ce que Dieu nous a donné comme outil des mains. Une possibilité de changer des choses, mais pas par nos forces, par l'insistance, par le fait que du jeûne, ça met comme une pression à Dieu, mais ça met de la pression dans la prière. Puis on va voir des passages, puis on va voir comment c'est important le jeûne. Puis ça n'a pas commencé à Jésus, ça non plus, le jeûne. Il ne faut pas penser que c'est une nouvelle chose que Jésus a établie. Ça existait depuis le début. Sauf qu'on va voir des passages, puis ça va nous faire du bien, parce que ça va nous montrer qu'il y a des gens qui s'en ont servi, puis ça a eu un résultat. Ça a du résultat. Le jeûne, quand on étudie la Bible, qu'on regarde ça bien, dans son ensemble, c'est une arme que Dieu nous a donnée. On le sait qu'on n'a pas à se battre contre la chair et le sang. On se bat pas contre les humains. On se bat contre les démons. Quels sont les moyens qu'on a? Y a-t-il quelqu'un qui a réussi à donner une claque ou un coup de poing à un démon? Tu swings dans le vide, là, tu n'es pas capable. Mais c'est une arme que Dieu nous a donnée pour frapper dans le monde invisible. Le jeûne, accompagné de la prière, bien entendu. Tu pries, tu jeûnes, ça a un impact. On va voir des passages tantôt là-dessus. C'est un arme pour combattre par la foi dans le monde invisible. Parce que c'est pas une arme, oui, ça peut avoir un impact chez les autres. Quand ils te voient jeûner pendant un mois, là, ils vont dire, il va-tu tomber malade, il va-tu mourir? Là, ça peut affecter les gens qui t'entourent quand tu jeûnes. Mais ça affecte. Ça a un impact dans le monde invisible. Dieu, il nous en a parlé dans certains passages, puis on va voir que quand le jeûne est là, il se passe quelque chose. On voit beaucoup de résultats. Le jeûne, c'est un puissant moyen de Dieu pour manifester de la ferveur dans nos prières. Quand Jacques dit « la prière fervente du juste a une grande efficacité », la ferveur, une prière fervente, c'est une prière avec, tu sais, plus que juste, oh, Seigneur, ça te tente, donne-nous ça. Ça, c'est pas fervent, ben. La ferveur, c'est quand il y a de l'intensité, du vouloir. Tu le demandes, mais t'insistes. Tu démontres que tes tripes, ton cœur, ta pensée est là, tu veux la chose. Fait que quand tu jeûnes en plus, tu rajoutes de la ferveur dans ta prière. C'est une arme, c'est un outil. Un outil pour mettre comme de la ferveur dans nos prières. Puis ça, il faut apprendre à rentrer dans ce côté-là, puis on va voir que ça a beaucoup de résultats. Presque tous les cas de prière fervente racontés dans la Bible, ils étaient appuyés par des jeûnes. On va en voir quelques passages. Puis à chaque fois que c'était des gros moments intenses, là, puis pas juste en individuel, une personne seule, des fois c'était le peuple au complet, des fois c'est à la ville au complet qui sont mal jeûnés. Il y a des situations là ça serait très difficile de dire que Beauharnois se mettrait à jeûner, la ville au complet de Beauharnois jeûner, parce qu'ils n'ont plus la crainte de Dieu. Mais dans le temps, quand les peuples avaient la crainte de Dieu, ils étaient prêts, toute une ville au complet à jeûner pour montrer qu'ils étaient repentants ou qu'ils désiraient vraiment ce qu'ils voulaient avoir. Mettait de la pression. Mais les gens, il y avait de la foi. Parce que ça prend de la foi pour utiliser le jeûne. Oui, tu peux, il y en a qui ont jeûné pour face au gouvernement, puis ils ont fait une grève de la faim pour dire qu'ils voudraient avoir telle et telle chose. Ça peut affecter le gouvernement, comme qui peut dire, ils vont te laisser crever, ils vont juste envoyer l'ambulancier à les tramasser quand tu souhaites à bout de force. Ça a un impact, plus ou moins. Mais dans le monde invisible, ça a de l'impact. On va voir comment Jésus en a parlé tantôt. On va le voir tantôt. Il n'a pas parlé tantôt, il en a parlé il y a 2000 ans. Tous les disciples affermis, des disciples matures, parce qu'on a parlé pas mal avant les fêtes, la maturité dans le Seigneur. Puis quand tu as une croissance, tu es à la stature de Jésus. Là, mais tous les disciples affermis, Jésus l'a dit, tout disciple affermi sera comme son maître. Mais pour arriver à ce degré d'affermissement, pour être à la stature de Jésus, à être un homme de Dieu, mais tous les disciples affermis comprennent et utilise le jeûne fréquemment. Un, pour se rapprocher de Dieu. Deux, pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Faire avancer les choses. Faire changer les choses. Puis ça, je sais que c'est pas tout le monde qui le comprenne ou on défend l'oublie puis on n'en le fait plus. Mais il faut revenir à cela parce que ça fait partie des outils de la Bible. Des moyens de Dieu pour combattre. Dans le dictionnaire biblique, le jeûne, mais ça dit que c'est un exercice volontaire, puis religieux, bien entendu. Le jeûne, c'est une abstinence. C'est ça qui est le sens du jeûne. C'est s'abstenir de quelque chose ou du manger complet, de pas manger ou de pas boire, ou les deux. De s'abstenir de choses volontairement, mais pour la foi. Dans le principe, là, c'est pour les choses religieuses. Tu jeûnes face à Dieu, sachant que tu es dans le monde invisible, Dieu te voit, puis Dieu sait que tu jeûnes pour ajouter de la ferveur dans ta prière. Fait qu'il y a un combat qui se fait à cause de cela. Une pression, pas presser Dieu, mais ça a de l'importance, notre ferveur, quand on prie, puis qu'on prie avec ferveur. Jacques, c'est pas pour rien qu'il a dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Si on veut voir de l'efficacité dans nos prières, il faut apprendre à avoir de la ferveur. Le jeûne public dans l'Ancien Testament, c'était prescrit dans la loi de Moïse, puis c'était observé. À tous les ans, il y avait le grand jour de l'expiation en automne, puis le monde jeûnait. Puis c'était une période de jeûne, puis il faisait tout le peuple, le juif, le font encore. Ceux qui sont croyants, là, qui marchent encore dans les principes de la loi de Moïse, pratiquent encore la fête de jeûner, c'est la fête de l'expiation en automne. Ça fait partie des rituels dans l'Ancien Testament. Mais dans la Bible, c'était utilisé avant que la loi soit là, puis c'était utilisé même après dans le temps de Jésus. Le jeûne sert premièrement à ce que l'on soit entendu d'en haut, quand on prie. Parce que, faut l'avouer, des fois nos prières ne montent pas. Ça ricoche. Ils ont tellement peu de foi, tellement peu de ferveur, tellement peu de désir. On prie pour prier, puis on se rappelle même plus pourquoi qu'on a prié. Des fois, c'est machinalement. Comment est-ce qu'on a vu des prières qui étaient comme des récitations? Le monde récite, puis il répète, il récite des prières prises par cœur, mais sans aucun, le cœur y est pas. Mais des prières comme cela, ça n'a aucune efficacité. Mais quand tu sais pourquoi tu pries, puis tu pries parce que tu veux vraiment la chose, puis en plus tu rajoutes du jeûne, ça t'aide, ça va faire avancer, ça va être l'impact dans les lieux célestes. La prière sert à accompagner nos jeûnes. Dans Isaïe 58, le verset 4, c'est un passage-là, Isaïe 58, au complet, parle du jeûne. Le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Puis dans cela, il parle pas juste de l'abstinence de nourriture. Le chapitre 58, il va dire aussi qu'il y a un mode de vie aussi qui doit être accompagné cette journée-là pour que tu sois entendu de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui jeûnaient, mais ils frappaient du poing son voisin. Ils se mettaient en colère, puis ils se battaient avec les autres parce que il faisait pas attention à leur vie, de vivre dans l'amour avec les... Là, Dieu, il parlait au peuple juif dans ce temps-là, dans Isaïe 58, mais c'est que le monde était capable de se priver de manger cette journée-là pour s'approcher de Dieu, puis en même temps, dans la même journée, il est capable de pogner des chicanes avec les autres, puis se battre avec les autres. Puis Dieu dit, dans ce jour-là, un jour de jeûne, pour qu'il soit acceptable, il y a un certain mode de vie qu'on les gens doivent avoir, un mode de vie d'amour, de paix, de pardon, de tu sais, il y a Vous irez lire le verset, le chapitre au complet chez vous. Moi, je ne le lis pas aujourd'hui. Je vais juste vous lire un bout du verset 4. Dieu, il dit, vous jeûnez pour disputer et vous querellez pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Parce que quand c'est un jour de jeûne, ben, Dieu s'attend à ce que tu jeûnes de la bonne façon. Le fait d'être en jeûne, c'est comme un jour important, un jour qu'on devrait faire attention. Ce jour-là veut un mode de vie. Il dit, vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour pour que votre voix soit entendue d'en haut. Ça veut dire que quand tu pries puis tu jeûnes, cette journée-là devant Dieu est importante, puis c'est une journée que tu peux être entendu d'en haut. Ça veut dire que Dieu, il va avoir ses oreilles attentives à tes prières, ses regards sur toi, il va vouloir te répondre. Parce que tu jeûnes de la bonne façon. C'est ça qui est le point qu'il faut remarquer. Le jeûne puis la prière est à demander par Dieu. C'est à Dieu s'attend à ce qu'on prie et on jeûne. Afin qu'on, comme dans une situation que je vais mentionner, qu'on retourne à lui avec un cœur sincère. Surtout quand on s'est égaré du Seigneur. On s'est éloigné du Seigneur. On n'a plus la relation proche. On se sent loin du Seigneur. Mais faut Dieu, on va voir dans Joël, le chapitre 2, le verset 12, ça nous dit que de revenir à lui avec des prières puis des jeûnes. Ça nous dit, « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes et avec des pleurs puis des lamentations. » Voyez-vous, c'est quoi une prière efficace? Prière, pleurs, lamentations, jeûne. Revenir à Dieu de tout notre cœur, Dieu s'attend, c'est lui qui a dit ça, revenez à moi avec ça. Ça veut dire que quand Dieu voit quelqu'un réellement que son cœur est là, c'est un gars qui est en prière, il est dans le jeûne, puis il pleure devant Dieu, ça fait plaisir à Dieu. Il voit qu'on est repentant. Le jeûne a de l'importance, frères et sœurs. Ça fait longtemps, cela, dans Joël, c'est dans l'Ancien Testament. L'idée de cela, du jeûne, Dieu trouve ça important quand on jeûne. On va regarder quelques exemples bibliques, des exemples dans la Bible qui parlent de personnes qui ont jeûné. Le premier passage qu'on va aller voir, c'est dans Jonas au chapitre 3, à partir du verset 5. Tout le monde connaît l'histoire de Jonas. Jonas est un prophète de Dieu. Dieu lui a dit, tu vas aller à Ninive, puis tu vas aller leur dire que dans 40 jours, je détruis Ninive. Parce que la ville, c'est une grosse ville, là. Des milliers d'habitants, là, bien plus gros Beauharnois, puis Châteauguay, là, bien plus gros. Du monde qui était même pas des Juifs, mais qui marchait dans la méchanceté, puis que Dieu, là, il en avait jusque-là, là. Puis il envoya Jonas, qui est un Juif, que lui, d'habitude, les Juifs veulent rien savoir des autres peuples, d'aller dans ce ville-là, puis lui dire que dans 40 jours, qu'il était pour avoir un jugement de Dieu, puis que la colère de Dieu était pour tomber sur la ville. Lui, il voulait pas y aller. Jonas s'est sauvé. Il a embarqué dans le premier bateau, puis il est parti. Puis pendant qu'il était sur la mer, il y a eu une tempête, puis Jonas savait que c'était de sa faute parce qu'il s'éloignait du plan de Dieu. Ça brassa dans sa vie parce qu'il s'éloignait de Dieu. Fait qu'il a dit, jetez-moi dans la mer, puis tout va se calmer. Ils ont jeté Jonas par-dessus bord, puis la tempête allait arrêter là. Puis là, Jonas s'est fait engloutir par un poisson. Il est mort, ça le dit dans le texte, il est mort, il est dans le séjour des morts. Il a crié à Dieu, puis Dieu l'a ramené à la vie, puis il l'a vomi sur la plage. Là, il est rentré dans la ville, je ne sais pas dans quel état qu'il était, mais après avoir été chiqué par un requin, je ne sais pas quoi, tu dois pas être en pleine shape. Là, il rentre dans la ville, puis là, il criait en marchant, « Dans 40 jours, Dieu va détruire Ninive. » Mais là, il s'est passé quelque chose dans ce ville-là. Là. Lui, il annonçait le jugement de Dieu, mais là, le monde a eu la crainte de Dieu. Il craignait Dieu, malgré que c'était du monde méchant, c'est du monde qui avait la foi en Dieu. Ils ont changé d'attitude face à Dieu. C'est ça qu'on va aller lire dans Jonas au chapitre 3, au verset 5 à 10. Il dit, les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils ont cru la parole. Ils venaient d'avoir un gars sortir de l'eau, là. Je sais pas quelle apparence qu'il avait, mais il était en train de dire à tout le monde, repentez-vous, le jugement s'en vient. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils publièrent un jeûne dans ce ville-là. C'est ça qui est fort. On parle de jeûne, là, mais ils ont publié un jeûne. Ils se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive, parce que dans ce temps-là, un roi régnait sur une ville. Comme un maire, mais avec plus d'autorité. La chose parvint au roi de Ninive, il se leva de son trône, il ôta son manteau, il se couvrit d'un sac, puis il s'assit dans la cendre. Dans ce temps-là, quand il jeûnait, il prenait le sac et la cendre. C'est qu'il enlevait le linge, puis il mettait comme juste une poche de jute sur eux autres, puis il se couchait dans cendre, dans poussière. Il se roulait dans poussière pour montrer qu'il n'était que poussière. C'était leur manière de jeûner, de s'humilier devant Dieu. Fait que le roi, quand il a entendu que Dieu était pour détruire la ville, il a fait la même chose que les autres, puis il s'est repenti. Bien, il s'est tourné dans la poussière. Au verset 7, « Il fit faire dans Ninive cette publication, par ordre du roi et de ses grands, que les hommes, les bêtes, les bœufs, les brebis, ne goûtent rien, ne paissent rien et ne boivent point d'eau. » Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas et s'il ne renonce pas à son ardente colère en sorte que nous ne périssions point? Puis là, Dieu vit qu'il agissait ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire. Il ne leur fit pas. Wow! Il ne leur fit pas. Puis c'est ça qu'il faut regarder aujourd'hui, comment est-ce que Dieu tient compte des gens qui jeûnent. Même si c'est des gens extrêmement méchants, s'ils jeûnent puis ils crient à l'Éternel en demandant pardon au Seigneur, Dieu va lui pardonner. Dieu fera pas le jugement sur eux autres. C'est ce qui est arrivé dans cette ville-là. C'est là qu'on voit comment est-ce que le jeûne, c'était connu. Ça, on parle de Jonas, ça, c'est bien avant Jésus, là, des centaines d'années bien avant Jésus. Puis le monde, non, du monde païen, savait c'était à quoi jeûner, puis jeûnait pour avoir comme une faveur de Dieu. Là, c'était pour être épargné du jugement. On voit que Dieu y agrée les gens qui s'humilient devant lui. Le jeûne, ça fait partie de s'humilier devant Dieu, se priver devant Dieu, dans le but de mettre de la ferveur dans nos prières. Un autre passage, un autre bel petit exemple, c'est Daniel. Dans Daniel au chapitre 9, le verset 2 et 3. Comment est-ce que Daniel... croyait en prière, bien entendu. Daniel, ça nous dit qu'il priait trois fois par jour, matin, midi, soir, il prenait du temps pour dans prière, puis il lisait la parole de Dieu, puis il cherchait à comprendre les prophéties de la parole de Dieu, des livres, des prophètes qu'il avait dans ses mains. Puis dans la période de Daniel, le peuple d'Israël avait été déporté à Babylone, il était esclave à Babylone. Il était comme des prisonniers à Babylone. Le peuple d'Israël, il était pris là, puis il ne savait pas pour combien de temps qu'il était pour vivre là. Puis là, ceux qui l'ont lu un peu avec l'histoire de Nébuchadnezzar, il est venu, puis il a ramassé tout le monde, puis il les a emmenés, il les a déportés à Babylone. Puis Daniel, pendant qu'il était à Babylone, il scrutait les écrits de la parole de Dieu. Puis il a tombé sur un passage du prophète Jérémie, puis il a eu des révélations. Dans Daniel chapitre 9, les versets 2 et 3. Il dit, la première année de son règne, moi, Daniel, Je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. Il vit par les livres. On voit que ce gars-là lisait les écrits de l'Ancien Testament, des prophètes, puis il a vu dans les écrits que c'était prophétisé par Jérémie que la déportation durerait 70 ans à Babylone. Puis un matin, quand j'ai lu ça, ça m'a frappé. Puis ça m'a montré comment c'est important de lire la Bible pour connaître les signes des temps, puis connaître les promesses de Dieu, connaître ce que Dieu nous a déjà révélé sur les choses qui doivent arriver. Lui, quand il s'en est aperçu, il y a eu une révélation sur quelque chose qui est en train de vivre. Tout le peuple sont déportés, puis il a vu dans les écrits que c'était pour 70 ans. Il dit, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète, c'était déjà annoncé, cette déportation-là. Il dit, verset 3, le verset que je veux peser, « Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière, aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. » Il s'est mis à prier pour cette prophétie-là. Il venait de voir, c'était pour être 70 ans, puis ça faisait presque 70 ans qu'il était là, puis il savait que ça s'achevait. Il s'est mis à prier, puis à jeûner, puis avec des supplications pour l'accomplissement de cette promesse-là qui avait été écrite dans l'Ancien. Puis il a été exaucé. Il est entendu par Dieu. Dieu lui a révélé d'autres choses par la suite. Mais le point, ce que je veux en venir, les prophètes, on a parlé tantôt des rois, on parle des prophètes, Daniel est un prophète de Dieu, utilisait le jeûne dans ses prières et les supplications. Un autre passage qu'on va aller voir, c'est dans Esdras au chapitre 8, le verset 21 et 22. Dans ce passage-là, ça nous parle que la prière et le jeûne étaient aussi utilisés pour demander de la protection à Dieu. Dans ce contexte-là, c'est en cours suite à la déportation de Babylone. Là, le roi Cyrus, parce que c'était plus Babylone qui régnait, c'était Cyrus, le roi des Mèdes et des Perses. Si ma mémoire est fidèle, là, je ne l'ai pas écrit, mais... C'est un autre roi qui a renversé le roi de Babylone, puis là, ce roi des Mèdes et des Perses-là a réaccordé aux Juifs de pouvoir retourner à Jérusalem, puis de rebâtir la muraille, rebâtir la ville tranquillement. Puis il les a donné... Ouais, mais c'était à Cyrus, je pense, qui était dans cette période-là. Puis, il y a eu la permission, il y a eu aussi... Mais qui était pour être accordé tout le stock qu'il a besoin là-bas pour faire ça, sauf que les gens qui étaient autour de Jérusalem, il y avait plein de méchants qui étaient là. Imaginez comme certains pays présentement qu'ils sont gérés par d'autres pays, puis que là c'est le désordre complet, là, puis l'anarchie dans le pays, puis là tout le monde s'entretue quasiment. Là. Ça serait épeurant d'aller vivre dans un pays de même. Surtout si tout arrive là, puis t'es dans les ceux qui sont persécutés. Les Juifs étaient les persécutés. Là, il est renvoyé avec la lettre qui lui donnait la permission, mais il y avait un long voyage à faire parmi les peuples là, pour se rendre jusqu'à Jérusalem, puis se remettre à travailler là. Puis on le voit dans lisant le livre qu'ils ont eu de l'opposition. Mais le point est, qu'est-ce que Esdras a fait quand il a eu la permission? Puis là, il partait en voyage pour retourner à Jérusalem, puis de commencer à rebâtir. Esdras, chapitre 8, les versets 21 et 22. Il dit là, près du fleuve d'Ahava, « Je publie un jeûne d'humiliation devant notre Dieu. » On voit qu'il y a encore recours au jeûne. « Afin d'implorer de lui... un heureux voyage pour nous et pour nos enfants. » Parce que là, c'était dangereux, ce voyage-là. Puis pour qu'il y ait la sécurité dans leur voyage, ils ne se promenaient pas en avion Air Canada, eux autres. C'était à pied ou à dos d'âne, d'un chameau, puis dans les déserts, puis parmi les périls des brigands, puis tout le kit. Il dit, là, on a imploré Dieu, un jeûne d'humiliation devant Dieu, pour lui implorer qu'on ait un heureux voyage pour nous et nos enfants, et pour tout ce qui nous appartenait. Il dit, j'aurais eu de la honte de demander au roi une escorte, puis des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi. Il était trop gêné de demander de la protection au roi. Il dit, nous autres, on marche par la foi, on s'en va là pour notre Dieu. Fait qu'il a dit, il s'est dit, je suis trop gêné de demander une escorte, mais on va jeûner puis prier pour que Dieu soit avec nous, puis il nous accompagne dans notre voyage, puis il nous fait réussir où ce qu'on s'en va. Car nous avons dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien et pour tous ceux qui le cherchent. Mais la force et sa colère sont contre tous ceux qui l'abandonnent. Il avait dit au roi que Dieu est avec ceux qui le cherchent. Fait que si Dieu est avec toi, je ne demanderai pas de l'aide au roi. Mais il a prié puis jeûné pour avoir de l'aide de Dieu. Puis c'est ça qu'il faut retenir. Comment les hommes de foi ont prié, mais ils ont ajouté du jeûne dans le but que leurs prières soient entendues devant Dieu. Puis comment est-ce qu'ils appellent ça, ce jeûne-là? Ils appellent ça un jeûne d'humiliation. On voit que le jeûne, comment ça rendait les gens à s'humilier devant Dieu, parce qu'ils ne faisaient pas juste se priver, ils mettaient un sac sur le dos, puis ils se roulaient dans la poussière aussi. Ils prenaient le sac et la cendre. Un autre passage, un beau passage, dans le psaume 35, le verset 13 et 14, ça nous parle de David, le roi David, qui est un prophète de Dieu, puis c'est un homme de prière, c'est un homme qui aimait louer Dieu, il en est composé des chants, puis il était même luthier qui créa des instruments de musique, son cœur était à Dieu. Puis on voit qu'il utilisait le jeûne, lui, avec. Dans le psaume 35, les versets 13 et 14, il jeûnait quand il voyait qu'un de ses amis était malade. Il nous dit au verset 13, c'est David qui parle, « Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme et par le jeûne. Je priais la tête penchée sur mon sein, comme pour un ami, pour un frère. » Je me traînais lentement, comme pour le deuil d'une mère. Je me courbais avec tristesse. On voit comment ce qu'il faisait le jeûne. C'était pas un moment d'excitation, c'était un moment d'humiliation. Puis, tu sais, l'exemple qu'on voit là, du gars qui est dans le temple, puis qui s'humilie devant Dieu, soit apaisé au Dieu envers moi, qui suis un homme pécheur, puis il regardait même pas en l'air. C'était un gars qui s'humiliait. Mais l'idée des jeunes, dans ce temps-là, c'était comme cela. Les gens s'humiliaient, ils se courbaient, puis ils se pliaient quasiment en deux, puis ils marchaient tranquillement, comme si c'était un moment de deuil. Puis là, ils se privaient de nourriture, puis ils se privaient dans leur jeûne, puis ils se mettaient un sac. Puis David faisait ça quand un de ses amis était malade. Dans ce temps-là, il n'y avait pas les médecins, puis le tchic-tchic, la carte qui paye tes médicaments, puis toute la patente. Là. T'avais un mal de tête, t'avais pas grand-chose pour enlever un mal de tête. Imaginez toutes les autres maladies, t'en mourrais. Fait que quand il arrivait des maladies, qu'est-ce qu'il faisait? Mais il jeûnait. Puis je suis sûr qu'il y a eu des exaucements. Ça n'en parle pas dans ce texte-là, mais pour dire... On veut quelque chose devant Dieu. Il faut apprendre à mettre de la ferveur dans nos prières. Amen. Amen. Comment étaient pratiqués les jeûnes? On va regarder quelques passages qui nous parlent de la manière que ces gens-là jeûnaient dans ce temps-là. Ça nous parle comment est-ce qu'ils faisaient cela, à part du sac et de la cendre. On va parler du jeûne de Moïse. Dans Exode, le verset 34, non, chapitre 34, le verset 28. Ce passage-là, il est assez étonnant. Je ne vous lirai pas tout le chapitre, juste un verset. Mais ça va vous donner une idée comment ce qui jeûnait. Nous, des fois, on entend des affaires, mais c'est assez spécial. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Là, il était sur la montagne pour recevoir la loi, les 10, les 10 commandements écrits, ces deux tables de pierre, plus les prescriptions. Il recevait ça. Puis là, il dit qu'il était là 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain, puis il ne but point d'eau pendant 40 jours sans manger ni boire. Puis là, l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles, les 10 commandements. C'est ça qu'on a dans Exode au chapitre 20. Il donne les 10 commandements, c'est ce qui était écrit sur deux tables de pierre, écrit par la main de Dieu. Mais ça n'a pas été donné facilement. Moïse, il était là 40 jours et 40 nuits à jeûner, pas manger, pas boire. Pire que ça, Moïse descend en montagne, il voit le peuple qui se prosterne devant une idole, il gâche les deux tables à terre, il les pète. Mais ça nous dit qu'il a remonté un autre 40 jours, 40 nuits à jeûner encore pour avoir un backup, un deuxième set des deux pierres. Wow! Jeûner deux fois en ligne les 40 jours. Mais je pense pas que Dieu va nous appeler là. Ça, c'est des cas spéciaux, il y a une bénédiction de Dieu. Un autre passage, ça nous parle comment est-ce qu'il y a eu d'autres sortes de jeûnes faites dans ce cas-là, Esther. Dans le livre d'Esther, au chapitre 4, les versets 15 et 16. Dans le contexte d'Esther, c'est encore un problème que les Juifs sont encore sous l'emprise d'un autre peuple qui les domine, puis qui établissent leurs lois, puis les Juifs t'a méprisé, puis ça a la mal. Puis là, il y a un peuple qui est en train de tuer le peuple juif. C'était Naaman, le méchant, là, dans cette histoire-là. Puis Esther, elle, c'est une juive, une très jolie femme, qui avait été présentée au roi parce que le roi, il voulait se prendre des femmes. Puis, fait qu'elle a été présentée, elle a été choisie. Puis là, il y a tout un rituel pour qu'elle devienne sa femme. Mais le monde, le roi de cette époque-là, ne vivait pas comme qu'on vit aujourd'hui dans nos maisons. Les femmes étaient à part, puis les femmes n'avaient pas le droit d'aller voir le roi. Fallait que le roi l'appelle pour qu'il ait le droit de venir dans sa présence. Si le roi ne l'avait pas appelé, si elle se présente là, elle pouvait se faire tuer tout de suite. Il aurait dit, clic, coupez-la la tête, garochez-la dehors. Il y a eux autres, c'était de même, ça marchait. Fait qu'elle est une juive, puis Mardoché, son oncle, il a dit, là, c'est pas pour rien que Dieu te plaçait là auprès du roi, là. Notre peuple est en train de se faire tuer, puis il faut que tu fasses quelque chose, là. Faut que tu alloies le roi. Elle, là, elle avait peur pour sa vie, parce que si elle se présentait sans qu'elle soit invitée, elle aurait pu se faire tuer par le roi, s'il n'était pas de bonne humeur, cette journée-là. Fait que là, qu'est-ce qu'elle a dit? On va aller lire ça dans Esther, chapitre 4, les versets 15 et 16. Esther envoya dire à Mardoché, son oncle, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi. » Elle a demandé du jeûne pour elle, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. On voit quand même son courage d'aller affronter un risque de perdre la vie pour aller parler en faveur du peuple, pour que ça arrête, là, que l'autre, le méchant, il arrête de tuer son peuple. Fait qu'elle y était. Là, l'histoire, si vous allez lire l'histoire, vous allez avoir la suite. Le roi, mais je peux vous en donner un petit quelque chose. Quand que Esther est rentrée, eux autres, elle venait de prier et jeûner. Dieu a exaucé la prière. Quand elle est rentrée, le roi, il a tendu le sceptre devant pour elle, puis elle a eu le droit d'entrer, puis venir faire sa requête. Puis, ouais. Il bypassait la loi, puis il l'a laissé rentrer dans sa présence, puis il a écouté sa requête, puis il a demandé pourquoi il était triste. Puis il dit, il y a quelqu'un, un méchant, qui est en train de tuer ma famille, puis mes amis, puis mon peuple. Tu sais? Fait que l'autre, il dit, c'est qui, ce le roi? Il a eu à cœur de l'écouter, puis de savoir c'était qui pour régler ce problème-là. Puis il a dit, puis là, allez lire l'histoire, c'est une super de belle histoire. Ouais. Mais là-dedans, ce qu'il faut retenir, c'est elle n'a pas avancé comme si elle aveuglait. Elle a prié et jeûné. Elle a fait prier tout le monde même. Puis là, Dieu a exaucé et a arrangé les affaires. Il ne monte pas dans le film. Un autre bel exemple qu'on voit, c'est une autre histoire avec Daniel puis ses compagnons. Quand il était déporté à Babylone, il faisait plus ce qu'il voulait. Là. Il était assis à la table du roi, puis il fallait qu'il fasse ce qu'on lui dit de faire. Puis Daniel puis ses compagnons, c'est des Juifs. Puis les Juifs, ils n'avaient pas de relation avec les païens. Parce qu'eux autres, c'est des saints, puis les autres, c'est des impurs. Puis ils mangeaient pas n'importe quoi. Mangeait pas de porc, mangeait tout. Toute la loi de Moïse avait des principes de choses que tu n'as pas le droit de manger. Mais l'autre qui est un païen, lui, il se permettait de manger n'importe quoi. Le roi, puis c'est comme nous, on mange n'importe quoi. Puis il dit à Shadrach, Meshach, puis Abednego, puis Daniel, il lui a dit, vous allez manger de ce qu'il y a à ma table. Eux autres, ils ne voulaient pas parce qu'ils ne voulaient pas manger des choses impures que Dieu défend dans la parole. Puis quand le surintendant il est venu pour aller voir Shadrach, Meshach, Abednego puis Daniel, mais il est à quatre, juif, il leur a dit, j'allais manger, qu'est-ce que là, il leur a dit, nous autres, on veut pas en manger, ouais, mais il dit, donne-nous juste des légumes. C'est dans ce passage-là qu'on voit ça. Je vais vous le lire, dans Daniel chapitre 10, le verset 2 et 3. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Oh non, c'est pas dans ce contexte-là, ce passage-là. C'est l'autre. Ça, c'est dans Daniel 1, le verset 8 et 9. Je me suis trompé de verset. Il résolut de pas souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Puis il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à souiller. Puis Dieu fit trouver grâce à Daniel. Daniel a eu la faveur puis la grâce devant le chef des eunuques. Puis il lui a accordé de ne pas manger du mets du roi. Mais ce que je veux en venir dans ce passage-là, c'est comment ça peut arriver des situations où ce qu'on peut être obligé de se priver de ce qu'on a à droit pour obéir à Dieu. Pour faire des choses que Dieu demande. Des fois, Dieu a demandé des affaires dans la parole, puis il nous demande de ne pas faire telle et telle chose, mais ça fait partie de ce qu'un disciple du Seigneur doit être prêt à faire, de se priver de ce qu'il aura pu faire, mais qu'il ne fait pas. Comment est-ce qu'un exemple? Des excès de table, puis des excès de manger, du boire de vin, puis de saouler, puis de prendre ce que le monde consomme dans le monde aujourd'hui. Si on ne connaîtra pas Dieu, on pourra se servir comme qu'on veut. Quand tu arrives au Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Dieu te demande d'être sobre. Il ne veut pas que tu t'enivres. Il ne veut pas que tu te drogues. Il ne veut pas que tu fasses comme le monde. Fait que veut pas, ça fait partie des choses qu'on veut plus dans notre vie, qu'on veut pas se souiller avec les choses du monde. Ça veut dire qu'un chrétien, il est appelé à se priver pour obéir à Dieu dans certaines affaires. C'est sûr qu'on en est content d'être libéré parce que c'est pas si le fun que ça d'être sous, là. Il y en a peut-être qui aiment ça, mais c'est pas si le fun que ça d'être sous. Puis souvent, on a même crié à Dieu pour qu'il nous en sorte. Ceux qui étaient esclaves de la boisson, ils ont crié à Dieu pour que Dieu les délivre de la boisson. Ça marche parce que Dieu exauce les prières. Mais le point est, les chrétiens sont appelés à des privations pour Dieu, pour pour obéir à Dieu, comme eux autres ont fait. Ils ont choisi de ne pas se livrer à ces choses-là pour obéir à Dieu, puis ils ont eu la faveur de Dieu, puis le gars, il lui a accordé d'avoir juste les légumes pour ce moment-là. L'autre passage que je voulais vous parler, c'est quand Daniel, il a eu des révélations encore sur les choses qui devaient arriver. Il est encore à Babylone, il était comme encore esclave ou assujetti ou plus libre. Il était comme prisonnier à Babylone. Il a eu des révélations, puis on va voir une manière qu'ils ont jeûné aussi dans ce passage-là, dans Daniel chapitre 10, les versets 2 et 3. Ça dit, en ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil, parce qu'il venait d'avoir des révélations, puis il voulait comprendre plus profondément les révélations. Il dit, je ne mangeai aucun mets délicat, il n'entra ni viande, ni vin dans ma bouche. Ça veut dire qu'il a mangé des toasts au beurre de pinot pendant 3 semaines, comme privation d'humiliation, pour que Dieu lui donne les révélations. Et je moignis point l'onction jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. On voit encore dans ce passage-là comment est-ce que ça peut arriver qu'on dans un jeûne, il n'a pas fait un jeûne complet de ne pas manger ni boire, mais il a fait une privation de ne pas manger de viande, puis pas manger de mets délicats. Fait que tout ce qui était des mets qu'on voit, nous autres, dans nos bonnes assiettes, mais lui, il n'a pas mangé ça, il doit manger une sandwich, mais sans viande, au beurre de peanut, pendant 3 semaines. Hein? Des légumes ou n'importe quoi. Tout ça pour dire, dans le jeûne, ça peut être des privations. C'est pas un jeûne, mais c'est des privations pour accompagner ses prières. C'est ça qui est le point qu'il faut retenir. Sans compter aussi, bien sûr, que Jésus lui-même, il a jeûné. Il connaissait ça, le jeûne. On voit que Jésus a jeûné 40 jours dans le désert, lui aussi. Dans Luc 4, le verset 1 et 2, ça nous dit, « Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint de Jourdain après avoir été baptisé, puis fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. » Là, il a eu faim après le 40 jours. Mais quand même, tout le monde aura faim. C'est pas un péché d'avoir faim. C'est d'être capable de s'abstenir selon l'engagement qu'on prend devant Dieu. Il y en a qui mangent pas du tout, puis il y en a qui n'ont pas mangé de certaines affaires. C'est des privations, dans le but d'humilier son âme, puis de se tourner vers Dieu. Quel avantage ajoute le jeûne? Qu'est-ce que ça donne de jeûner quand on voit que ces gens-là l'ont fait? Ça a-tu donné des choses positives? Oui. Tous les cas qu'on vient de voir, ils ont été exaucés. Ils ont reçu des... Puis il y en a d'autres dans la Bible, j'ai pas tout pris les cas. Il y a une place qu'on voit qui n'a pas été exaucée, mais je vais en parler un petit peu plus mercredi. Parce que mercredi, je vais en venir encore comme une petite suite avec d'autres éléments sur le jeûne. Mais, en général, Dieu exauce les prières ferventes. Parce que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Jésus explique que lorsqu'on jeûne, c'est une manifestation de notre foi. On prouve qu'on a de la foi. Dans l'exemple qu'on va aller lire dans Matthieu 17, le verset 14 à 21, on va voir que le fait de jeûner va donner de la victoire contre les démons. Puis le fait que tu jeûnes pas pour avoir la victoire, ça démontre que tu es incrédule. Dans Matthieu 17, le verset 14 à 21. Ça dit, alors les disciples s'approchèrent de Jésus. Ça, c'est tout de suite après que les disciples... Jésus était à sa montagne avec Pierre, Jean, Jacques. Il y a eu la transfiguration. Puis là, Jésus a descendu la montagne avec les trois disciples. Les autres disciples étaient là, puis il y avait une foule. Puis il y avait un enfant qui avait un démon après lui, puis ils n'ont pas été capables de le délivrer. Là, les disciples allaient voir Jésus. Il dit, les disciples s'approchèrent de Jésus, puis lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? » Jésus leur avait dit un peu avant, « Je vous ai donné le pouvoir sur les puissances de l'ennemi, puis rien pourra vous nuire. J'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. » Puis, ils n'ont pas été capables de le délivrer. Le disciple demande à Jésus, « Pourquoi qu'on n'a pas été capable de le délivrer? » Jésus répond, « C'est à cause de votre incrédulité. » C'est à cause que vous n'avez pas la foi. C'est ça que Jésus est en train de dire. C'est à cause que vous doutez. C'est à cause que vous n'êtes pas prêts à aller jusqu'au bout pour être délivrés. Vous ne croyez pas que vous allez l'avoir, la victoire. C'est pour ça que vous baissez les bras avant que la délivrance complète soit faite. Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, et elle se transporterait, puis rien ne vous serait impossible. C'est fort. Puis là, il rajoute, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. On voit dans ce passage-là comment c'est important de jeûner quand on voit que les choses avancent pas comme que ça serait supposé. Souvent, on va baisser les bras, puis j'ai prié deux fois, trois fois, puis ça n'a pas marché, puis là, on est découragé, on arrête. Il ne faut pas arrêter. Il faut continuer à combattre, il faut jeûner. Puis jusqu'à quand il faut continuer à combattre? Jusqu'à temps que la guérison ou la délivrance est arrivée. Ça ne le dit pas. Il y a beaucoup de maladies qui peuvent être faites par des démons, là, il y en a beaucoup. Ouais. Il y a toutes sortes, il y a plusieurs. Puis il y a des cas, j'ai déjà vu des personnes possédées là, qui ne se contrôlaient plus du tout, qui étaient complètement hors de sens, puis que la bave sort, puis tout ça, j'ai vu ça. C'est des possessions, c'est plus que juste une faible maladie, ou juste des faiblesses, ou des aptitudes moins grandes. C'est une vraie possession, c'est les yeux à l'envers, puis la bave qui sort, puis ça ressemble un peu comme une crise d'épilepsie, mais la bave, puis toute la quête, puis crier, puis le nez tout croche. Il y en a, ça va jusqu'à là. Fait que c'est dur à dire quelle maladie que c'était, parce que ça le dit pas. Ça dit juste que c'est un démon qui était après lui. De temps en temps, il le saisissait, pas tout le temps. De temps en temps, puis c'est là qu'il faisait ses crises, puis il se roulait par terre, puis tout le kit, puis il écumait. Fait que, faut faire attention, pas. Des fois, ça peut être juste une maladie, des fois, ça peut être un esprit, des fois, ça peut être les deux. Mais peu importe, il ne nous a pas demandé de suivre un cours de médecine, là. Il nous a juste demandé d'avoir de la foi, puis de prier, puis de jeûner, pour voir les choses changer. Amen, amen. Je vous laisse un dernier passage. Jésus a annoncé, pendant qu'il était là, qu'après son départ, après sa mort, il y aurait une levée de ses disciples qui jeûneront. Dans Luc chapitre 5, les versets 34 et 35, ça dit, parce que les gens ils ont été voir Jésus, puis ils ont dit, « Hey, tes disciples, ils ne jeûnent pas. Nous autres, les disciples de Moïse, ils jeûnent. Puis vous autres, les disciples de tes disciples, ils ne jeûnent pas. » Et Jésus leur a répondu, « Pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront en ces jours-là. » Voyez-vous, ce que je dénote là-dedans, quand tu es en communion avec l'époux, ça représente Jésus là-dedans. Quand tu es en communion avec le Seigneur, puis tu es rempli du Saint-Esprit, tu sens pas le besoin de jeûner, tu es dedans. C'est surtout quand que tu le sens plus, quand il est séparé, ta vie commence à dessécher, c'est le temps de jeûner pour retrouver le contact. Il dit, pendant que je suis ici sur la terre, là, ils n'ont pas besoin de jeûner, ils sont avec moi. Il dit, un jour, je vais monter, je vais partir, puis là, ils vont se mettre à jeûner. Puis ça, c'est une idée pour dire que des disciples de Jésus s'ajeunent. Amen.